Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Margot Loridon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jérémy Kaufmann. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler de la Grande-Bretagne aujourd'hui puisque cette semaine, le Premier ministre britannique a dévoilé un projet de loi dont les dispositions sont en contradiction avec l'accord de principe conclu entre Londres et Bruxelles en janvier dernier. Résultat, eh bien, l'Union européenne est vent debout contre Boris Johnson, exigeant qu'il s'explique et lui rappelant avec fermeté que retoquer cet accord reviendrait à violer le droit international. Dernier coup de menton d'un beau Joe coutumier du fait, les Européens ont bien du mal à comprendre la stratégie de Londres alors que le temps presse pour espérer conclure un nouvel accord qui permettra de poser le cadre de la future relation commerciale avec nos voisins britanniques. Mais alors que veut Boris Johnson? On se pose cette question depuis si longtemps. Est-il vraiment disposé à discuter ou s'agit-il d'abord pour lui de tenir une posture d'ouverture pour finalement aller tout droit vers un no deal? Et d'ailleurs, quelles seraient les conséquences pour l'unité du Royaume-Uni? Aurait-il déjà un plan pour un tel scénario? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin Pauline Schnapper. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine et vous aviez écrit l'année dernière avec Emmanuel Avril, Où va le Royaume-Uni, le Brexit et après c'était chez Odile Jacob. Avec nous également Christian Lequen. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à Sciences Po, responsable du programme de recherche sur l'Europe, EU-LISTCO, c'est comme ça? C'est ça l'acronyme?
Oui.
Merci d'être avec nous. On va évoquer évidemment toutes ces questions dans quelques instants. D'abord, comme chaque vendredi, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Long. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient des Balkans et en particulier d'Albanie. C'est Laurent Gélin, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef des Balkans. On vous reçoit pour un article signé avec Jean-Arnaud de Reims dans Le Monde Diplo. On va parler de l'Albanie, mais on parlera aussi un peu du Monténégro. D'abord, commençons avec l'Albanie qui, rappelons-le, l'année dernière a été touchée par un séisme qui avait fait plus d'une cinquantaine de morts. Vous êtes allé justement sur les bords de l'Adriatique qui avait été particulièrement touché à ce moment-là. Que reste-t-il des séquelles de ce tremblement de terre?
Bah écoutez, au moment où on a réalisé ce reportage au début de l'année 2020, avant le Covid, les traces du tremblement de terre étaient encore très présentes. Ce tremblement de terre qui s'est déroulé le 26 novembre 2019, qui a touché principalement deux régions, la ville portière de Durrës sur l'Adriatique, et puis un petit village dans les montagnes au nord de Tirana qui s'appelle Souman. Et quand nous sommes allés sur place, effectivement, les traces de ce tremblement de terre étaient encore extrêmement présentes. Dans cette ville de Durrës, vous avez, et je pense qu'ils y sont toujours, des immeubles, des carcasses d'immeubles complètement lézardées, des dents creuses, voilà, des immeubles qui s'étaient effondrés assez brutalement, ce qui révèle à la fois l'incohérence de construire ces immeubles sur ces zones qui étaient sismiques, qu'on savait sismiques, et puis qui révèle aussi, je dirais, la pauvreté des matériaux utilisés et je dirais la bulle immobilière qui a frappé l'Albanie et qui est le syndrome de quelque chose de beaucoup plus grave.
Mais tous, heureusement, n'étaient pas occupés. Justement, il y avait une grande partie de ces villas et autres hôtels qui étaient inoccupés pour une raison.
Oui, tout à fait. En fait, à Durrës, où c'est une bulle immobilière qui s'est développée depuis une dizaine d'années, globalement, c'était une plage sous le régime d'Enver Hoxha avant les années 90, totalement vierge, avec des pinèdes, etc. Une zone naturelle assez incroyable, d'après les témoignages qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, c'est une zone totalement urbanisée, avec des immeubles qui font parfois 20 étages, 30 étages, où les routes d'accès qui permettent d'arriver à ces immeubles sont tellement étroites que, par exemple, les camions de pompiers ne peuvent pas y pénétrer. Et ce phénomène de construction immobilière est le syndrome d'une corruption généralisée en Albanie depuis le début des années 90 et d'un blanchiment d'argent massif. En gros, on blanchit l'argent de la drogue et d'autres trafics dans les immeubles de la côte ou à Tirana ou ailleurs dans le pays.
Oui, Tirana justement, dont vous dites dans votre article que c'est quasiment un chantier à ciel ouvert. En tout cas, il y a quasiment à tous les coins de rue quelque chose qui se construit, un centre commercial, un boulevard périphérique, enfin plein de choses. Il y a même un grand projet Tirana 2030, dont on est en train de penser ce Tirana de dans 10 ans. Sauf que pour construire, il faut évidemment de l'argent et que cet argent, il vient en grande partie de la drogue et notamment du cannabis. Il y a, visiblement, c'est ce que vous expliquez, une explosion de la production de cannabis et il semblerait que certains responsables politiques pas complètement étranger à tout ça?
Alors évidemment, c'est toujours extrêmement difficile d'avoir des preuves directes de ce blanchiment d'argent. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une production de cannabis absolument énorme et en augmentation exponentielle ces dernières années. Alors un peu moins ces deux dernières années, mais le phénomène était surtout remarquable en 2017-2018, par exemple, où les saisies de cannabis ont explosé littéralement. Et selon les douanes italiennes, la Guardia di Finanza, qui surveille ce phénomène, puisque l'Italie est le premier pays touché par cette explosion de la production, hein, on a des navettes rapides qui traversent l'Adriatique pour livrer de la drogue directement sur les côtes italiennes. Donc la police italienne est très au fait de ce phénomène. On a effectivement des surfaces cultivées qui avaient explosé. Ces dernières années, il semble que ces surfaces cultivées se soient un peu rétractées, mais on peut certainement penser que des stocks encore énormes existent en Albanie et que cette culture, en tout cas cette production massive, n'aurait pas été possible sans l'aval des autorités, sans l'aval des polices locales, tellement cette culture a pris une ampleur exponentielle. On peut penser que beaucoup de gens étaient au courant, la police locale et beaucoup d'hommes politiques, notamment on peut penser à l'ancien ministre de l'Intérieur du Premier ministre Edi Rama, qui avait lui-même été inculpé de trafic de drogue, qui a été depuis blanchi, mais qui est passé devant la justice pour rendre compte d'une participation à un groupe mafieux lié au trafic de drogue.
Alors Edi Rama, justement, le Premier ministre de l'Albanie, d'abord sur son action, parce que lorsqu'il présente les choses, il semble que ce pays soit le nouvel Eldorado. D'abord, on a une croissance qui est, c'est vrai, plutôt bonne ces dernières années, on est à peu près à 4%, donc c'est plutôt un bon niveau de croissance. On a un niveau de chômage qui baisse aussi, on était à, vous vous rappelez dans votre papier, un peu plus de 17% en 2014, on est aujourd'hui à un peu plus de 11%, je vous parle avant la crise du Covid, donc ça va plutôt dans le bon sens. Par ailleurs, lui explique un peu partout, notamment dans la télévision italienne, que ça y est, les Albanais commencent à revenir au pays et que c'est à nouveau la terre promise, sauf que c'est pas exactement ça, hein, le visage de l'Albanie d'aujourd'hui.
Alors il faut nuancer effectivement, déjà sur le retour des immigrés albanais qui avaient qui étaient allés chercher fortune à l'étranger, ces retours sont impossibles à vérifier, hein, on a très très peu de chiffres. On sait qu'après 2010, après la crise financière, il y avait eu effectivement un retour massif d'immigrés albanais, 200 à 300 000 personnes environ, mais c'était la conséquence directe de la crise, hein. Les Albanais qui travaillaient en Grèce ou dans d'autres pays frappés durement par la crise financière étaient revenus au pays parce que tout simplement ils n'avaient plus de travail dans leur pays d'émigration. Aujourd'hui, effectivement, on a une baisse du chômage qui peut s'expliquer en partie par une baisse de la population en Albanie. En début 91, vous aviez 3,2 millions d'habitants dans le pays. Aujourd'hui, les estimations parlent plutôt de 2,8 millions d'habitants. Alors, c'est la conjonction de deux phénomènes, une baisse de la natalité assez importante et puis surtout un exode massif qui a touché la population albanaise depuis les années 90, qui n'a pas été compensé par ses retours après 2010. Donc, effectivement, il y a une baisse du chômage. Il y a aussi, effectivement, des investissements dans le pays. On peut penser notamment à ces grandes entreprises de centres d'appel. Vous savez, quand vous appelez en Italie, je sais pas, pour vous plaindre de votre abonnement Internet, et ben vous avez une très grande forte chance de tomber sur un opérateur albanais. Les Albanais parlent très bien italien, souvenir de la colonisation italienne. Ils sont relativement bien formés, hein, donc ils parlent aussi français. On a aussi des boîtes françaises qui sont présentes en Albanie, donc pour assurer ce type de service. Le problème, c'est que ces investissements n'apporte que des salaires extrêmement modestes aux employés albanais. Dans un centre d'appel, vous êtes payé 300 à 400 euros par mois, ce qui pour l'Albanie est un bon salaire, mais ce qui en revanche permet de vivre tout juste correctement à Tirana. Mais c'est un développement économique en trompe-l'œil. Hein. Vous avez dans beaucoup de familles une personne qui travaille avec 300 ou 400 euros par mois. C'est très difficile pour l'ensemble de la famille de survivre avec cette somme, ce qui explique qu'aujourd'hui les Albanais quittent toujours massivement le pays. Pour preuve, les Albanais étaient en 2018 les deuxièmes demandeurs d'asile en France. Hein, et c'est évidemment pas pour des raisons politiques, c'est avant tout en raison d'un désespoir profond qui touche la société albanaise. Les gens partent parce qu'ils n'ont plus le sentiment que les choses pourraient évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est un aveu d'échec terrible pour le gouvernement d'Edi Rama. Et c'est un constat dramatique, à savoir quand vous avez les forces vives de votre pays qui quittent le pays, non pas parce qu'elles n'ont pas de travail, parce qu'effectivement, 10-15% de chômage, c'est des scores relativement, je dirais, modestes, mais parce qu'ils n'ont plus la perspective ou l'espoir que les choses s'améliorent. Et ça, c'est encore plus terrible. Donc ce développement, si vous voulez, vanté par le Premier ministre, a une certaine réalité, mais ça ne suffit pas pour vivre le pays et ça ne suffit pas pour ramener de l'espoir au sein de la population albanaise.
Alors il y a l'économie et puis il y a la politique en général. Le fameux Edi Rama dont on parle, le Premier ministre, on va regarder peut-être comment l'état de cette démocratie albanaise, il dit que le pays se porte si bien parce que notamment il n'y a pas de Sénat, parce qu'il n'y a pas de syndicat, parce qu'il n'y a pas de gauche radicale. Bon, il y a quand même 2-3 choses qui peuvent être utiles dans une démocratie. Où en est justement le pays? Quel regard vous portez sur cette démocratie albanaise?
Alors aujourd'hui, il faut savoir que Edi Rama gouverne sans réelle opposition. Aux dernières élections municipales qui se sont déroulées l'année dernière, l'opposition... Alors globalement, le spectre politique en Albanie est divisé en 2 grands partis. Vous avez le Parti Socialiste, dont Edi Rama est le dirigeant principal, et vous avez le Parti Démocratique, d'orientation plutôt, je dirais, centre-droit, même si les qualificatifs centre-gauche et centre-droit ne veulent pas dire grand-chose en Albanie. Donc vous avez ce pays qui est divisé en 2 gros blocs politiques, le Parti Socialiste et le Parti Démocratique. Et aujourd'hui, Edi Rama dirige seul, puisque le Parti Démocratique avait boycotté ses élections municipales. Ce qui fait que l'entièreté des municipalités albanaises sont aujourd'hui contrôlées par son parti. Et les députés du Parti Démocratique élus au Parlement boycottent également ce Parlement. Donc vous avez un parti majoritaire qui gouverne sans contrôle réel d'une opposition existante. Et surtout, vous avez des pressions de plus en plus intenses, par exemple sur les derniers journaux indépendants, sur les 2 derniers journalistes indépendants du pays. Donc c'est un pouvoir sans opposition qui est bien sûr critiqué par de nombreux Albanais. On a régulièrement des manifestations dans la rue. Quand il dit qu'il n'y avait pas d'opposition de gauche radicale, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques mouvements qui sont apparus ces dernières années, qui contestent la privatisation généralisée des biens publics, qui contestent ces attaques régulières contre la liberté de la presse, etc. Vous avez des petits collectifs ou des petits groupuscules qui essaient de résister, mais globalement,
qui ne constituent pas une force politique suffisante pour s'opposer.
Oui,
parce qu'il faut le rappeler, il y a eu ces derniers temps beaucoup de manifestations, et notamment dans le monde étudiant, on s'est élevé contre la hausse des prix à l'université, mais en réalité c'était beaucoup plus large que ça, et à côté de cela, il y a donc une vraie revitalisation, c'est ce que vous dites dans votre article, de cette gauche-là. Alors, on a du mal à trouver une traduction politique de tout cela, il n'empêche que dans la société, c'est très présent.
Alors, c'est compliqué d'être de gauche en Albanie, c'est ça le fond du problème, c'est que le souvenir de la dictature d'Enver Hoxha est tellement encore présent, et cette dictature était tellement, répressive, contraignante, dure, absolument horrible pour la majorité de la population albanaise, que le souvenir ou le mot même de gauche reste extrêmement compliqué à utiliser, et se revendiquer de gauche en Albanie reste aujourd'hui encore extrêmement compliqué. Ce qui n'empêche que, effectivement, au sein des universités, ces 2 dernières années, a émergé un mouvement qui proteste contre la privatisation des universités, contre l'augmentation des droits d'inscription, contre le fait de devoir payer pour repasser des examens, etc., etc. Et vous avez un vrai mouvement de protestation qui est d'ailleurs porté par des enfants et par des jeunes qui n'ont pas connu cette période de dictature. C'est des gens qui sont nés au début des années 90 ou au milieu des années 90 et qui n'ont pas connu toute cette période de dictature et qui impulse une nouvelle force, un nouvel espoir pour la gauche albanaise qui n'a plus rien à voir avec ses souvenirs de la dictature.
Est-ce que ce ne serait pas le moment, Laurent Gélin, d'aller tendre la main à l'Albanie et de lui ouvrir, alors pas l'adhésion tout de suite, mais d'ouvrir de vraies négociations avec ce pays pour une intégration future?
Alors l'Albanie a reçu le feu vert de l'Union européenne en mars 2020 avec la Macédoine du Nord. Donc théoriquement, le processus de négociation pour une intégration à l'Union européenne devrait se mettre en place.
Et ça, c'est la théorie.
C'est la théorie. Bon, vous savez, comme moi, l'état de l'Union européenne et les perspectives d'intégration pour les pays des Balkans occidentaux sont encore très lointaines. On peut, sur le papier, ou décider d'ouvrir les négociations, et c'est un geste qu'il fallait faire, tout à fait nécessaire pour donner un espoir à ces citoyens albanais. La réalité de l'ouverture des négociations et la réalité de l'intégration à l'Union européenne pourra encore attendre un peu, à mon sens.
Alors, Laurent Gélin, parlons un petit peu, il nous reste quelques minutes, du Monténégro. Parce que, alors c'est un petit pays, hein, 610 000 habitants, bordé par la mer Adriatique et frontalier avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie justement, qui était devenu un pays membre de l'OTAN en juin 2017, candidat lui aussi à l'intégration à l'Union européenne, et ça en fait donc un laboratoire, en tout cas un pays à observer quand il s'y passe des choses. Or, il s'est passé des choses, puisque à la fin du mois d'août, il y a eu des élections et que l'alternance a eu lieu. Alors, on s'en réjouit, l'alternance est toujours bon pour la démocratie, sauf que, visiblement, il y a peut-être des choses à attendre sur le plan politique et géopolitique. On dit que c'est le camp pro-serbe qu'il a emporté, et donc on se dit que le Monténégro pourrait se rapprocher de la Serbie et même, du coup, de Moscou. Alors, comment interpréter tout cela? Le Monténégro est passé de l'intégration à l'OTAN au regard tourné résolument vers l'Est?
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, avant de parler du nouveau gouvernement qui va se mettre en place au Monténégro, il faut parler du gouvernement qui est en place auparavant. Et le Monténégro avait la caractéristique de n'avoir jamais connu d'alternance politique depuis 1945, puisque le parti du président Milo Djukanovic était l'héritier du parti communiste yougoslave depuis 1991. Milo Djukanovic lui-même est au pouvoir depuis 1991. Il a été désigné Premier ministre à cette date, qui en fait le dirigeant d'Europe le plus ancien. Il a même 2 ans de plus d'expérience à la tête du pouvoir que notre ami Loukachenko. Donc c'est un homme qui a évidemment l'habitude du pouvoir et dont le parti contrôlait absolument tous les organes de l'État, évidemment le Parlement, les mairies, etc., mais toutes les grandes entreprises, tous les grands secteurs de production de l'État. Et durant ces 30 ans de règne, les limites entre le budget de la famille Djukanovic et les limites et le budget de l'État n'étaient pas très clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc la défaite du DPS, le parti de Djukanovic, est un énorme séisme, non seulement pour le Monténégro, qui, comme vous l'avez rappelé, est un petit pays, mais pour l'ensemble des Balkans, puisque ça remet en mouvement, je dirais, des forces qui étaient acquises depuis une trentaine d'années. Alors la nouvelle coalition qui est apparue à la suite de ces élections rassemble effectivement des partis d'orientation pro-serbe, mais également des partis d'orientation pro-monténégrine, démocrate, citoyenne, disons. Et la coalition qui va se mettre en place a d'ores et déjà pris des règles qu'elle va appliquer. L'une d'entre elles est de ne pas remettre en cause l'adhésion à l'OTAN. L'autre est de continuer cette intégration à l'Union européenne, la voie vers l'Union européenne. Et la dernière est de ne pas remettre en cause l'indépendance du Monténégro acquise en 2006. Donc
pas par exemple de rattachement à la Serbie, qui est un scénario que certains ont craint.
Non, ça je pense que ça n'arrivera pas, tout simplement parce qu'il y a des générations de gens, même s'ils se considèrent plutôt appartenir, je dirais, à l'orbite culturelle serbe, qui se sentent monténégrins. C'est très important à rappeler. Et ensuite, au sein de cette coalition gouvernementale qui va se mettre en place, alors vous allez effectivement avoir des gens de différentes sensibilités, des gens qui se sentent profondément serbes, mais a priori, d'après les premières déclarations, il n'y aura pas de remise en cause de l'État du Monténégro, ni de l'adhésion à l'OTAN, ni du chemin vers l'Union européenne. Alors évidemment, cette déclaration d'intention va subir l'épreuve de l'exercice du pouvoir. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, c'est un signe, à mon sens, très positif envoyé aux citoyens monténégrins, en leur disant une alternance est possible, et cette séparation binaire dont profitait Djukanovic, à savoir, si vous votez pas pour moi, vous tombez dans l'escarcelle de la Russie et de la Serbie. Cette division binaire a une chance de pouvoir voler en éclats, ce qui est une très bonne chose à mon sens.
Un peu un scénario à l'arménienne, d'une certaine manière, où on reste sur le fil en équilibre entre l'Europe et Moscou, assez habilement.
Alors, vous savez, le Monténégro a... La majorité de ses échanges se passe évidemment avec l'Union européenne. C'est un petit pays qui est intégré, je dirais, aux vagues économiques qui le relient à l'Europe. Vous avez eu effectivement des intérêts russes, hein, notamment au sein des services secrets monténégrins. Vous avez pu avoir des agents russes. Vous aviez pas mal de Russes qui avaient acheté des entreprises ou des propriétés sur la côte monténégrine. Mais je dirais que le chemin vers l'Europe et le chemin vers l'intégration européenne, à mon sens, n'est pas remis en cause par cette élection, qui apporte au contraire une bouffée d'oxygène assez salvatrice dans un petit pays qui étouffait quand même sous ce clan Djukanovic au pouvoir depuis 30 ans, qui contrôlait absolument tout. Hein. Concrètement, vous pouviez pas acheter un bar sur la côte sans, à un moment ou à un autre, avoir affaire à des gens qui vous demandent de l'argent. Donc, on va voir quelle ampleur ça va changer, hein. Les choses vont pas changer du jour au lendemain. Mais rien que le fait qu'il y ait une alternance, à mon sens, c'est une bonne chose.
Je vais faire peut-être un petit tour de table, une petite réaction. Alors, on va parler donc de la Grande-Bretagne. Le chemin, il est inverse puisqu'on quitte l'Union européenne. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il se passe dans cette région-là. Christian Lequen, Pauline Schnapper et Marc Sémot. Christian Lequen.
Oui, je pensais à l'entrée dans l'Union européenne, puisqu'il y a une promesse formelle des Européens depuis 2003 d'accueillir ces pays. On se dit quand même que les conditions de l'état de droit ont encore du chemin à faire avant de remplir les critères. Et c'est un peu un crève-cœur parce que si on répond à ces pays, vous savez, vous n'êtes pas prêts, etc. On sait aussi que par ailleurs d'autres profitent de cette situation. Je pense aux Russes en particulier, mais aussi aux Chinois. Hein. Il ne faut pas oublier que ces pays font partie aussi de la fameuse coopération 17+1.
Edi Rama, le premier ministre albanais, est très proche, un grand ami de Erdogan.
Voilà. Donc c'est une situation qui met l'Europe, je trouve, face à un espèce de paradoxe.
Pauline Schnapper.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est tout ce qui affaiblit l'Europe est inquiétant de voir d'un côté le Brexit dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, et puis de l'autre ces pays qui eux voudraient entrer mais qui sont dans un état pour l'instant tel que les faire entrer ne ferait qu'affaiblir encore l'Europe, alors qu'on a déjà la Hongrie et la Pologne sur les bras, si je puis dire. On voit mal pour l'instant comment faire entrer ces pays-là. Et tout ça n'est pas très bon.
Marc, c'est mauvais.
Je pense que la transition sera difficile. C'est la coalition qui arrive, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Avec à Belgrade un leader toujours plus autoritaire et corrompu, Aleksandar Vučić. Bon, les autres sont démocrates, mais comment vont-ils se concilier avec les partis pro-serbes? On verra. Mais en tout cas, c'est quand même à noter cette incroyable alternance, parce que on n'y croyait plus. C'est quand même le dirigeant qui a été capable de mener toutes les politiques, depuis protéger de Milosevic jusqu'à rentrer dans l'OTAN. Milo Djukanovic, dans ce que les Italiens appellent le transformisme, est quand même un maître absolu.
Merci beaucoup, Laurent Gélin.
Oui, effectivement, juste sur le parcours de Milo, c'est quelqu'un qui a vu un nombre incroyable de présidents, de premiers ministres, d'ambassadeurs. Il a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Juste pour apporter une précision, là il a peut-être, et c'est sûrement ça qui a précipité la chute de son parti, le DPS, il a joué avec une corde sensible en essayant de faire passer une loi sur les religions en décembre 2019 qui aurait pu nationaliser certains biens de l'église serbe orthodoxe Monténégro. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui ne passe pas, puisque la majorité des citoyens du Monténégro sont orthodoxes, même ceux qui votaient pour Djukanovic, beaucoup sont orthodoxes et beaucoup sont affiliés à l'église orthodoxe serbe.
Merci beaucoup Laurent Gélin. Toutes ces analyses à retrouver justement dans cet article signé avec Jean-Arnaud Derains dans Le Monde Diplo. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'excellent Courrier des Balkans. Un grand merci à vous.
Où est veče kasno je glasno ko mene doma zasto zveče teće pjati strašno ne biti ga gladan zaspo bijelo brašno med i maslo pileće meso sa paštom samo stanem doma pojedem za cijelo bratstvo vidim tu je sir iz kace domaći sa naše pjace pivske kobasice bucam ti ko pravi pancer puding od vanile nije mi žao da načne.
C'est avec un titre monténégrin, un groupe monténégrin qu'on tourne cette page. On se dirige du côté de la Grande-Bretagne. No Deal, So What, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque depuis des mois, le Premier ministre britannique souffle le chaud et le froid, enchaîne les reculades et autres volte-face, et la dernière en date est assez spectaculaire, puisque cette semaine, le gouvernement a dévoilé un projet de loi dont les mesures sont en contradiction avec l'accord trouvé avec l'Union européenne en juin dernier.
Mon travail consiste à défendre l'intégrité du Royaume-Uni, mais aussi à protéger le processus de paix en Irlande du Nord et l'accord du Vendredi Saint. Pour ce faire, nous avons besoin d'un filet de sécurité juridique pour protéger notre pays contre les interprétations extrêmes ou irrationnelles du protocole qui pourrait conduire à une frontière en mer d'Irlande d'une manière qui, selon moi et selon les députés de l'Assemblée, serait préjudiciable aux intérêts de l'accord du Vendredi Saint.
Voilà comment, au détour d'une phrase, Boris Johnson balaie d'un revers de main un accord de 700 pages trouvé avec Bruxelles et en particulier sur le protocole de contrôle douanier sur lequel on s'était mis d'accord en janvier dernier. Une telle loi serait une violation du droit international et s'apprête la confiance à lancer la présidente de la Commission dans un moment décisif puisque les négociations reprennent à propos de la future relation entre Londres et Bruxelles et qu'elles doivent aboutir avant la fin de l'année. Mais Boris Johnson a-t-il vraiment l'intention de trouver un accord? N'a-t-il pas d'ores et déjà acté le scénario d'un no deal? Et les Européens y sont-ils préparés? Pauline Schnapper et Christian Lequen sont nos invités. Merci encore d'être avec nous ce matin. Marc Sebon, on commence avec vous comme on le fait chaque vendredi. Alors, on est habitué hein, aux frasques de Boris Johnson, mais la particularité de ce coup de théâtre, c'est que on est dans la toute dernière ligne droite et que le temps presse, le timing est tellement serré qu'on se demande si finalement, en réalité, dans la tête de Boris Johnson, c'est pas déjà acté et qu'il ne sait pas déjà qu'il va aller vers un no deal.
C'est possible, mais le Brexit est acté, il entre en vigueur en janvier, avec un accord de retrait qui a valeur de traité international. D'où l'émotion suscitée en Europe, mais aussi parmi nombre de parlementaires britanniques, par l'annonce de Boris Johnson de remise en cause de certains de ses aspects sur l'Irlande du Nord, parce que le Royaume-Uni est quand même le pays du rule of law et pas un État voyou. Alors, la vraie question, c'est de quel Brexit on veut. Et c'est la question qui est en filigrane de toute cette nouvelle poussée de fièvre. Alors, il faut faire la part de la politique. Boris Johnson est en chute dans les sondages pour sa gestion pour le moins piteuse de la crise sanitaire. Et évidemment, c'est une manière de remobiliser les plus durs du camp conservateur. C'est aussi réouvrir un contentieux sur le Brexit. C'est aussi faire diversion par rapport à cette question de la Covid. Et surtout, le problème, c'est que les Tories restent profondément divisés sur le Brexit qu'ils veulent, après l'accord de retrait, qui précisait les conditions du divorce, mais maintenant commence le plus difficile, qui doit justement être bouclé d'ici la fin de l'année, qui est celle de la relation future. Alors, un Brexit soft, hein, où globalement, la Grande-Bretagne qui avait un pied dedans, un pied dehors, aurait un pied dehors, un pied dedans, bon, c'est l'Union européenne, avec toutes ses contraintes, et même pas la possibilité, comme à l'époque où où le Royaume-Uni était dedans, de peser sur les décisions. Un Brexit dur, c'est évidemment le rêve du Singapour sur Tamise aux portes de l'Union, flambeau du libéralisme et de la mondialisation. Et est-ce qu'à ce niveau-là, Boris Johnson est effectivement prêt à aller jusqu'au no deal? Pour le moment, on a plutôt l'impression qu'il utilise cette menace comme repoussoir afin de tenter d'avoir le maximum de concessions de la part de Bruxelles, sans grand succès. Les 27 sont unis et ils savent que la Grande-Bretagne a beaucoup plus à perdre à un non-accord que l'Union européenne.
C'est là que nous sommes en désaccord, Marc. C'est que moi, je pense que Boris Johnson a déjà dans sa tête prévu le no deal et que tout cela est un peu du théâtre. Mais justement, on va poser la question à nos deux invités. Pauline Schnapper, est-ce que pour Boris Johnson, il est encore vraiment dans une posture de négociation? Est-ce que vous pensez qu'en fait, c'est déjà acté, c'est déjà entériné ce no deal en réalité?
Moi, je crois qu'on peut pas le dire, surtout à ce stade.
Et qu'il ne le sait pas lui-même.
Lui, je pense, et en tout cas, c'est ce que nous dit la diplomatie britannique, lui a encore dans l'idée de faire un deal et il a dans l'idée qu'il faut faire du bluff. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il faut prétendre jusqu'à la fin que non, on ne cédera pas, que ce sont les Européens qui sont des affreux et qu'on est prêt à partir sans accord. Et mettre tellement de pression sur les Européens pour qu'au dernier moment, ils cèdent. Et il a l'idée, probablement, peut-être en tout cas, que il est encore possible de faire ça fin octobre avec les Européens. Ça, c'est une hypothèse qui peut pas être écartée. Je ne m'aventurerai pas plus loin. Mmh. Elle n'est pas certaine, mais elle peut pas être écartée. Mmh. Et puis, il y a l'autre hypothèse qui est celle dont Marc vient de parler, qui est que depuis le début, il est poussé, et peut-être le pense-t-il lui-même, on ne sait pas ce qu'il pense, et peu importe, par des gens, en tout cas, qui pensent que ce qui compte, c'est de sortir de l'Union Européenne à tout prix, que ce sont les Européens qui ne font pas preuve de souplesse, que les Européens leur refusent ce qu'ils voudraient, c'est-à-dire un simple accord de libre-échange du type du Canada, veulent leur imposer des contraintes supplémentaires qui n'imposeraient pas à d'autres pays tiers, liées au fait que le Royaume-Uni est voisin géographiquement de l'Union Européenne et qu'il en a été membre pendant 40 ans. C'est ce que dit l'Europe en ce moment, c'est ce que dit Barnier. Et que donc il est normal de lui demander des choses qu'on ne demande pas à des pays tiers. Beaucoup de conservateurs britanniques trouvent ça scandaleux, et ils sont tellement persuadés que le Royaume-Uni prospérerait en dehors de l'Europe, que l'Europe c'est fini de toute façon, que le projet européen n'a plus de sens, que l'avenir c'est les relations avec les États-Unis, la Chine et l'Australie, que peu importe. Alors vraiment, il y a ces deux hypothèses, et moi je peux pas vous dire aujourd'hui si c'est plutôt l'une ou plutôt l'autre.
Laquelle de ces deux hypothèses vous paraît la plus vraisemblable, Christian Lequesne, de ce que vous voyez, de ce que vous comprenez?
Alors, je partage d'abord tout à fait l'idée qui a été exprimée que c'est difficile de répondre à 100%.
Bien sûr.
Mais je crois à l'hypothèse plutôt de la pression maximaliste pour l'instant dans le but d'obtenir un accord, tout en ajoutant immédiatement que si cet accord n'a pas lieu, ça ne dérangerait pas Boris Johnson tant que cela. Voilà, c'est un peu ça la position dans laquelle se trouve le Premier ministre et son entourage. Il faut pas oublier que, et ça pour tous ceux qui regardent le Parti conservateur depuis fort longtemps, on est dans une période extrêmement idéologique avec un déni de réalité. Si vous voulez, la question économique, la question des échanges, etc., c'est pas ce qui compte le plus pour les Brexiteurs les plus durs. Ce qui compte, c'est vraiment la représentation de la souveraineté nationale, de reprendre le contrôle, comme ils le disent. Et ça bénéficie d'un certain soutien dans une partie de la population britannique, notamment dans les nouvelles classes sociales qui votent conservateurs et qui ont voté aux élections de décembre pour la première fois pour le Parti conservateur. Cette Europe nous ennuie, on a été pendant des décennies et des siècles une grande nation, on n'a rien à apprendre, etc. Et puisqu'on est bon, on va de toute façon s'en sortir. Voilà, c'est un peu ce discours très simpliste, mais qui est une réalité dans une partie du camp conservateur aujourd'hui.
Marc Semo, puis Pauline Schnapper.
Bon, ce discours, effectivement, a le vent en poupe dans une partie du nouvel électorat conservateur, mais à l'échelle nationale, on est quand même dans une situation où on évoque la possibilité que s'il y avait un nouveau référendum, malgré tout, le Brexit ne passerait pas. Et que l'opposition a beaucoup monté, qui est pour un Brexit très soft, voire pas de Brexit du tout. Notamment chez les jeunes.
Je suis pas tout à fait d'accord, malheureusement, avec cette interprétation. J'aimerais que vous ayez raison, mais je crois que c'est pas tout à fait le cas. Et surtout, à la limite, peu importe ce que l'opinion publique générale pense en ce moment, Boris Johnson a une majorité de 80 députés au Parlement. Il peut faire passer ce qu'il veut. Du moins tant qu'il n'y a pas une rébellion de plus de 50 députés. Par ailleurs, une bonne partie de l'opinion publique a tourné la page du Brexit, y compris des gens qui, au fond, sont contre. Il suffit de voir la position actuelle du leadership du Parti travailliste, qui peut absolument pas être soupçonné de populisme pro-Brexit, mais qui a cessé d'en parler simplement parce que les électeurs ne veulent plus en entendre parler. Et donc ça, malheureusement, je crois qu'on ne peut pas compter dessus. Et pour revenir sur ce que disait Christian, je crois qu'il a vraiment soulevé un point très important, qui est que le Brexit est un projet populiste, au sens où c'est un projet anti-européen, bien sûr, mais aussi anti-institution et anti-élite britannique, sur lequel joue totalement Johnson et son entourage, son fameux conseiller Dominic Cummings, est dans une posture qui est de dire, de rejet de tout ce qui représente les élites pro-européennes, disons de Londres, c'est-à-dire la BBC, c'est-à-dire les juges, la Cour suprême. Et donc, qui dit juge dit aussi droit international, les traités qu'on a signés l'année dernière. Tout ça, c'est une histoire d'élite pro-européenne et d'européens qui veulent nous empêcher
mais c'est
de
vraiment,
trouver notre souveraineté.
C'est vraiment ce qu'ils pensent ou en fait, la loi qui a été présentée là au Parlement, il se trouve qu'elle rentre en contradiction avec l'accord de janvier, mais on le savait pas trop, on s'en était pas trop rendu compte.
Mais ils le savent très bien. Bien sûr qu'ils le savent très bien.
Les juristes les plus qualifiés sont intervenus dans le débat pour dire que ça n'était absolument pas acceptable et que c'était la première fois d'ailleurs que la Grande-Bretagne qui s'est toujours revendiqué l'idée que elle était un négociateur dur, mais qu'en même temps elle mettait en œuvre les accords. Ça va contre cette idée. Ça choque énormément, une partie de l'establishment et notamment au sein de la haute fonction publique. Mais là où je suis vraiment à 100% d'accord avec Pauline, c'est que le projet populiste consiste aussi à museler cette fonction publique. Le High Civil Service, comme on l'appelle, n'a jamais été aussi soumis au contrôle politique qu'en ce moment. Ça se traduit d'ailleurs par des démissions. Le jurisconsulte Sir Jonathan Jones, qui est extrêmement respecté, a démissionné suite à la proposition de loi visant à contredire les termes du traité du mois de décembre dernier.
Dans l'hypothèse où, comme vous l'avez dit les uns et les autres, Boris Johnson cherche effectivement à obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'il chercherait précisément à obtenir de la part de l'Europe et qu'est-ce qu'il peut encore obtenir, Christian Lequen?
Écoutez, je crois que ce qui les gêne vraiment, c'est les questions de conditions de concurrence équitable et notamment le fait que l'Europe demande vraiment des notifications sur les aides d'État, parce qu'il faut savoir qu'avec la crise du Covid, ces aides d'État ont augmenté comme dans tous les pays européens en Grande-Bretagne. Et puis le deuxième point, alors là qui est hautement symbolique quand on regarde les plus eurosceptiques du Parti conservateur depuis 30 ans, ça a toujours été un élément qui mettait en avant la pêche. Là, il ne faut absolument pas céder sur la question des zones de pêche. Donc voilà, ce sont sur ces deux points qu'ils aimeraient que l'Union européenne puisse faire des concessions allant dans leur sens.
Pauline Schnapper.
Juste un petit point sur cet aspect-là. C'est pas le moindre paradoxe. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire de Singapour sur la Tamise, du mythe d'une Angleterre plus que néolibérale, enfin néolibérale, et pour l'instant Boris Johnson se plaint parce que l'Union européenne veut l'empêcher de financer des entreprises en difficulté ou, alors ça c'est le rêve de Cummings, les entreprises high-tech. L'idée de Cummings c'est qu'un Royaume-Uni débarrassé de l'Europe deviendrait une nouvelle Silicon Valley. Et pour ça il faudrait que l'État puisse mettre de l'argent dans ces entreprises. Ouais. Donc on est complètement à front renversé dans une espèce de délire, de fantasme de ce que pourrait être un Brexit.
Et ça marche, en termes d'opinion publique?
Ça, j'en suis pas sûre.
Non, on ne sait pas.
C'est trop tôt pour le dire, pour le coup. Parce que derrière tout ça, il y a quand même, en arrière-plan, mais pas vraiment en arrière-plan, à la fois le Covid et puis une crise économique majeure au coin de la rue, qui va tomber sur le Royaume-Uni dans les semaines qui viennent. Et en particulier, on s'attend au retour du chômage de masse, ce que le Royaume-Uni n'a pas connu depuis les années 80, avec la fin des systèmes de ce chômage partiel qui ont été mis en place en mars, comme partout ailleurs. Donc tout ça est un peu vertigineux.
Christian Lequen, encore un mot?
Oui, il faut quand même citer un chiffre. Au deuxième semestre, la baisse de PIB est environ 20%. Chez nous, elle est de 13,8%. Donc elle est déjà très
importante. Et on est parmi les mauvais.
On n'est pas parmi les meilleurs. Voilà. Et on pense, dans les études économiques sérieuses, que les acteurs économiques ou les acteurs de la société qui sont le plus impactés par le Covid seraient ceux qui le seraient aussi par le Brexit. Voilà. Et là, il y a une chose, je ne sais pas ce que Pauline en pense, mais moi qui me frappe beaucoup, c'est quand même la relative discrétion du business. Or, on sait très bien que le grand business britannique, la Confederation of British Industry, etc., trouve tous ces scénarios catastrophiques, mais ne s'exprime pas tellement en public.
Il y a quand même eu une tribune récemment avec une centaine de chefs de grosses entreprises quand même qui ont mis la pression en disant que l'hypothèse d'un no deal serait une catastrophe économique.
En fait, le business se plaint de ne plus avoir accès au gouvernement. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que traditionnellement, les grandes entreprises, la City, etc., étaient main dans la main avec le Parti conservateur.
Exactement.
Enfin, c'était même une plaisanterie dans la vie publique britannique qu'on ne pouvait pas différencier. Et c'est là où j'en reviens, encore une fois, à ce projet politique populiste qu'est le Brexit, qui a transformé le Parti conservateur en parti populiste, ou quasi-populiste. Et du coup, les interlocuteurs traditionnels du Parti conservateur n'arrivent plus à se faire entendre du gouvernement. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Enfin, c'est déjà le cas sous Theresa May, mais c'est vraiment post-référendum. C'est quelque chose de nouveau. Et du coup, les entreprises ne savent plus quoi dire, plus quoi faire, parce que on ne les écoute plus.
Alors, il y a évidemment maintenant les conséquences. Ça fait des années maintenant qu'on parle des conséquences possibles du Brexit et surtout d'un Brexit dur sur un certain nombre d'affaires intérieures. Il y a la question irlandaise avec la frontière et puis il y a la question écossaise. Commençons peut-être par la question de la frontière en Irlande. D'abord, peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Pauline Schnapper, ce que prévoit précisément le projet de loi de cette semaine s'agissant de ce qu'on pourrait transformer dans le protocole de contrôle douanier sur lequel on s'était quand même un peu mis d'accord. Et puis après, on verra sur...
Alors, en deux mots, l'accord qui a été trouvé donc en novembre dernier, c'est l'instauration d'une frontière dans la mer d'Irlande. C'est-à-dire que les contrôles douaniers se faisaient... Il y avait un seul espace commercial économique avec l'Irlande du Nord et la République, qui reste dans l'Union européenne, et les contrôles se faisaient à l'entrée sur le territoire de la Grande-Bretagne au sens strict, c'est-à-dire Angleterre, Écosse, Pays de Galles. D'où la fureur des unionistes nord-irlandais, d'ailleurs. À ce moment-là, qui avait été trahi par Johnson, ce que Johnson évidemment est le dernier à reconnaître. Donc c'était ça l'accord. Ça permettait d'empêcher la frontière entre le nord et le sud, un seul espace. En gros, pour simplifier, l'Irlande du Nord restait de fait dans l'Union européenne, ou en tout cas du point de vue commercial. Et là, ce que Johnson dit dans ce projet de loi, donc qui a été introduit hier à la Chambre des communes, c'est en fait c'est nous qui allons contrôler les douanes à l'entrée sur le territoire, et ce qui veut dire on ne fera pas de contrôle entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre. Alors les unionistes sont ravis, mais évidemment c'est exactement le contraire de ce que les Européens ne peuvent pas accepter, ça, puisque c'est ça veut dire de facto qu'il n'y a plus de frontières européennes en Irlande, du point de vue commercial, il n'y en a déjà plus du point de vue de la circulation des personnes.
Et ça, on ne l'acceptera pas.
Et ça, c'est inacceptable.
Impossible, question laquelle.
Non, parce que cet accord, le fameux protocole sur l'Irlande du Nord, a été vraiment le point d'achoppement de la négociation dernière. Il a fallu se battre très, 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 très longuement. On est arrivé à ce compromis, accepté par les Britanniques, et maintenant les Britanniques disent on ne veut pas le mettre en œuvre. Donc, c'est totalement inacceptable. C'est une violation du droit international. Alors, le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord l'a même reconnu. Enfin, il a eu des propos en disant que c'est une violation spécifique du droit international. Mmh, c'est ce qu'il a utilisé
comme terme. Vous violer un petit peu.
Alors, il y a un autre point qui est important aussi. Ce sont les aides d'État, puisque dans le système tel qu'il a été conçu dans le précédent traité du mois de décembre, les aides d'État qui sont consentis aux industries nord-irlandaises doivent être aussi notifiés à la Commission européenne, en sachant que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière, en quelque sorte. Voilà. Et là, même chose, ils nous disent, avec cette proposition de loi du 9 septembre, pas question de notifier les aides d'État. Donc ça fait quand même beaucoup.
Pauline Schnapper, encore un mot sur l'Irlande, et puis ensuite, on fera notre, comme chaque semaine, notre séquence avec Cartooning for Peace, et puis on parlera derrière de l'Écosse. Mais sur l'Irlande, au tout début du Brexit, au lendemain du référendum de juin 2016, on osait à peine parler de la question de la réunification, vraiment du bout des lèvres, tellement ça paraissait incroyable. Et là, de plus en plus, on en parle. Est-ce que le scénario d'un no deal renforce considérablement, ou pas forcément, le camp de ses partisans, des deux côtés ?
Oui, pas autant, je pense, qu'en Écosse, où on reviendra tout à l'heure. Mais tout de même, c'est vrai qu'il y a maintenant un débat sur la réunification irlandaise qui était tabou, sauf évidemment chez les nationalistes, jusqu'en 2016. Maintenant, vous dire que d'ici 10 ans, il y aura une réunification de l'Irlande, ça, non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que autant l'indépendance de l'Écosse commence à devenir plus que crédible, vraisemblable. Autant dans le cas de l'Irlande du Nord, enfin de la réunification de l'île, on est sur du long terme. Et on est tout autant, je pense, sur des questions démographiques que sur des questions européennes. Mais l'Irlande du Nord ne voulait pas sortir de l'Union européenne, y compris certains unionistes.
On se garde l'Écosse pendant quelques minutes. 11h44 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. Place à notre bulle du jeu du vendredi. C'est la bulle Cartooning, cette association Cartooning for Peace, avec des caricaturistes dans le monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de l'actualité internationale qu'on a choisi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux! Assis!
Qui nous est présenté par Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors, le dessin de ce matin, Mélanie, c'est une histoire de saut dans le vide.
Et oui, le saut dans le vide, le plongeon dans l'inconnu. Ce n'est pas la première fois qu'on emploie cette métaphore pour parler du Brexit. Et la voici à nouveau utilisée dans un dessin signé Joep Bertrams. Bertrams, c'est un caricaturiste néerlandais dont on a souvent évoqué le travail ici. Et c'est avec beaucoup de talent, mais rarement avec tendresse, qu'il chronique très régulièrement la saga du Brexit. Et comme souvent, Bertrams, eh bien, va droit au but. Ce que nous avons sous les yeux, c'est un plongeoir suspendu au-dessus du vide. Un plongeoir aux couleurs du drapeau européen, tout au bord duquel se trouve un homme en tenue de bain, prêt à faire le saut de l'ange. Un homme que l'on devine à son corps gentiment grassouillet et surtout son caleçon aux couleurs du drapeau de l'Union Jack, être bien sûr Boris Johnson. Je dis quand même on devine car sa tête est dissimulée dans un sac, sous un sac de course, où l'on peut lire écrit à l'envers « No deal ». Boris Johnson donc, prêt à plonger tête la première sans vérifier ce qui l'attend en bas, si confiant dans ses choix et sa posture qu'il ne voit plus littéralement le risque qu'il est en train de prendre. D'ailleurs, le dessin s'intitule « Self-confidence », « confiance en soi ». Et c'est vrai qu'il en faut une bonne dose au Premier ministre britannique pour aborder cette nouvelle phase de négociation avec l'Union européenne, en commençant par remettre en cause les bases de l'accord précédent. Une bien solide confiance encore pour affirmer que le no deal ne serait pas un drame, voire une option envisageable, alors que nombre d'observateurs s'accordent à dire que le Royaume-Uni aurait bien plus à y perdre que l'Union européenne. Alors cet homme sur son plongeoir s'apprête-t-il à plonger dans une confortable piscine ou bien dans les eaux froides de la Manche? Est-il un inconscient, un suicidaire ou un arrogant? Certes, il faut avoir une bonne dose de self-confidence pour négocier ou sauter dans le vide, c'est important, mais cela peut-il être au prix de la confiance, encore elle, que vos partenaires vous accordent à ne pas honorer ses promesses? Le Royaume-Uni pourrait y perdre sa réputation, avertissait il y a quelques jours l'ancien Premier ministre John Major. Cette assurance so British perdra-t-elle nos voisins? Bertrams, dans son dessin, ne nous dit pas la profondeur du vide.
Ah, cette confiance toute britannique. Peut-être une petite réaction, Christian Le Ken, Pauline Schnapper? Sur ce dessin qu'on met évidemment en ligne sur les réseaux sociaux, le fil Twitter de Culture Monde notamment, Christian.
Oui, bah self-confidence, effectivement, c'est un bon terme. On a peur de rien, quoi, en quelque sorte. Mais ça, c'est un vieux trait de la société britannique aussi, d'être assez sûr de soi. Et ça a eu des bons côtés dans l'histoire, d'ailleurs. Hein. Je pense à la Deuxième Guerre mondiale, notamment. Mais parfois, ça vire un peu au nombrilisme.
Il y a une certaine arrogance.
Alors, Pauline Schnapper, la question écossaise. Dans quelle mesure le scénario du no deal renforcerait ce camp? On va le voir, mais d'abord, on va faire un tout petit peu de pédagogie là aussi. Le texte de cette semaine, il y a un volet qui a été présenté donc au Parlement britannique. Il y a un volet qui concerne l'Écosse avec visiblement des éléments qui participeraient d'une forme de récupération de pouvoir, de prérogatives qui jusqu'ici allaient au Parlement écossais. Alors qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il a quand même été traité de voyou par un représentants nationalistes écossais qui étaient là sur place. Il y a bien quelque chose derrière ça.
Oui, il y a un conflit, moult conflits actuellement entre Londres et Édimbourg, puisque en Écosse, c'est un gouvernement indépendantiste, nationaliste, qui est au pouvoir, avec des pouvoirs limités, bien sûr. Mais parmi ces pouvoirs, il y a entre autres l'agriculture, par exemple, qui relevait jusqu'au Brexit de la politique agricole commune. Et donc, pas de Londres, mais de Bruxelles. Je donne cet exemple-là, il y en a d'autres. Avec le Brexit, tout ce qui concerne l'agriculture, la pêche, l'environnement, etc., qui relevait de l'Union européenne, est rapatrié, mais rapatrié où ? Évidemment, le gouvernement écossais veut récupérer le contrôle de ces politiques-là. Or, le gouvernement actuel à Londres a dit « Ah non, 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 puisqu'il y a un marché commun interne au Royaume-Uni, qui comprend les produits agricoles, ça ne peut être dirigé que ça ne peut être que centralisé à Londres. » Et donc ça c'est pas nouveau, ça a été redit avec ce projet de loi, mais c'est un conflit latent depuis déjà un an ou deux qui ne fait évidemment que renforcer la fureur. Alors des indépendantistes, mais pas seulement des indépendantistes, des Écossais en général qui se sentent particulièrement maltraités par le gouvernement de Londres en ce moment. Et le point évidemment crucial, c'est que depuis janvier, les sondages donnent maintenant une majorité pro-indépendance en Écosse, ce qui n'était jamais arrivé depuis, pas au moment du premier référendum sur l'indépendance de 2014, et même pas juste après le Brexit.
Référendum de 2014, on rappelle, c'était 55% de non.
55-45. Et là, il y a une grosse marge ?
On est à 55-45 dans l'autre sens. Et surtout, c'est pas un sondage, c'est tous les sondages depuis maintenant 6 mois. Donc ça, plus de 6 mois.
Ouais.
Donc ça commence à avoir à vouloir dire quelque chose. Un sondage, comme on sait, ne dit rien. Mais quand il y en a une succession avec des méthodologies différentes qui vont tous dans le même sens, ça devient intéressant.
Alors, Marc Sémot, Christian Lecan, Marc Sémot, vous
êtes... Est-ce que tout ça n'est pas à même, justement, de faire un peu réfléchir Boris Johnson et de rester dans une logique, malgré tout, de négociation avec l'Union européenne? Parce que être dans l'histoire celui qui aura donné le coup de grâce au Royaume-Uni pour quelqu'un qui, en tant que petit-neveu de Churchill, n'a pas arrêté de brandir haut et fort l'Union Jack, c'est un peu lourd, non?
En théorie, oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens au sein du Parti conservateur qui s'en inquiètent beaucoup. Mais, encore une fois, on est dans une situation qui n'est pas une situation normale, où les entreprises n'arrivent pas à se faire entendre, où les gens qui s'inquiètent de l'union avec l'Écosse n'arrivent pas beaucoup à se faire entendre non plus. Donc, il n'est pas certain que ça suffise comme argument.
Christian Lequel.
Alors, on va attendre les élections du mois de mai, je crois, en Écosse, et on verra donc ce que le parti indépendantiste fera. À mon avis, il fera un très très beau score. Je crois que Mme Surjohn a indiqué il y a quelques jours qu'elle déposera un projet de loi de référendaire. Bien sûr, elle ne s'engagera, étant donné qu'elle a perdu, que son parti a perdu en 2014, elle ne s'engagera que si elle est sûre de gagner. Et aussi, il faut que Londres accepte. Et ça va être le point d'achoppement, parce que Cameron en 2014 avait accepté.
Absolument.
Et là, Johnson fait savoir que il refuserait. Voilà.
Alors.
Donc ça va être une espèce de casus belli qui ressemblera plus à la situation catalane avec l'Espagne qu'à la situation de 2014 entre Londres et Édimbourg.
Mais justement, est-ce que finalement là le scénario que moi j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'en fait Boris Johnson a déjà prévu son coup et qu'il est déjà en fait en train de réfléchir à comment il va gérer les crises différentes, notamment la crise écossaise. On est là dans une situation où, en réalité, il peut empêcher ce référendum. Et il est avec ce texte-là de cette semaine, il s'est créé des leviers qui, potentiellement, demain, pourraient lui servir dans une négociation avec les Écossais. C'est-à-dire qu'il peut demain, il va y avoir une crise politique, on le sait bien, mais il peut demain dire aux nationalistes écossais, écoutez, voilà, pour l'agriculture, comme vous le disiez, Pauline Schnapper, ok, vous récupérez. Mais en revanche, on va pas jusqu'au référendum et on règle le problème. On va pas jusqu'à l'indépendance. On soulève pas ce qui est le début de la désunion totale de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'au fond, il a pas déjà pensé à cette hypothèse-là? Vous me direz, je suis un peu farfelu.
Vous êtes optimiste sur sa capacité à planifier.
C'est un homme intelligent.
C'est un homme intelligent, mais c'est un homme de court terme. C'est un homme qui pense à ses intérêts immédiats. C'est pas quelqu'un de très bon pour la stratégie à long terme. Ça, par ailleurs, quand bien même ce serait le cas, moi je n'y crois pas beaucoup, parce que la pression qui viendrait de l'Écosse serait extrêmement forte. Nicola Sturgeon a très bien manœuvré pendant la crise Covid. Elle est apparue comme l'espèce de adult in the room, pour reprendre une expression anglaise, celle qui savait ce qu'elle faisait, là où Johnson était, faisait n'importe quoi, disparaissait, était malade d'ailleurs, mais enfin aussi prenait toutes les décisions, puis leur contraire, enfin bref, ne maîtrisait pas du tout la situation. Elle a réussi, pour l'instant, à se sortir plutôt bien politiquement de la crise actuelle. Sa popularité est forte. Elle, selon toute vraisemblance, elle va remporter une très forte majorité qu'elle a déjà au Parlement écossais l'année prochaine. Et elle va mettre la pression sur Johnson en disant, voilà, il y a maintenant 60% de gens qui veulent un deuxième référendum, voire plus un deuxième référendum, et 55% qui veulent l'indépendance. Nous, sur une plateforme d'indépendance, on a remporté une majorité absolue, on a les deux tiers des sièges au Parlement écossais. Combien de temps Johnson pourra-t-il dire non, je refuse ce moment démocratique aux Écossais?
Mais il n'y a pas encore des marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore négocier de nouvelles prérogatives.
Je pense que c'est trop tard.
Un nouveau processus d'autonomisation qui n'irait pas jusqu'à l'indépendance? Il n'y a rien à négocier avec Édimbourg?
Je crains que ce soit trop tard. Je pense que c'était possible en 2014, ça a été d'ailleurs promis en 2014 et pas appliqué. Je crains que, en tout cas avec un gouvernement Johnson, ce soit impossible.
C'est ce que... J'ai juste un point. Mais alors, est-ce que c'est pas justement le Brexit qui change tout là-dessus? Parce que les Écossais seront encore plus déterminés qu'ils étaient contre le Brexit. C'est ça qui change totalement
la... C'est l'idée de Sturgeon.
Bien sûr, ça a renforcé. Mais je pense que Madame Sturgeon demandera plus de transferts de compétences. L'exemple de l'agriculture est un très bon exemple. Même chose pour la gestion des zones de pêche. Maintenant, effectivement, est-ce que l'idéologie du parti conservateur actuel et notamment de l'entourage de Johnson fera en sorte que on accepte ce compromis rationnel? Là, je n'en suis pas sûr. Parce qu'il ne faut pas, oublier qu'on est dans une configuration qui est purement idéologique au sein du Parti conservateur. Et c'est ça qui est parfois difficile pour nous à comprendre, parce qu'on a tellement en tête l'idée que la Grande-Bretagne, c'est le pays du pragmatisme politique. C'est totalement faux, totalement faux. On a jamais...
C'est
eu...
pour ça d'ailleurs que les résultats économiques en réalité sont secondaires pour Boris Johnson.
Bien sûr,
c'est
ça, ça ne compte pas. Et d'ailleurs, quand vous parlez à ces conservateurs les plus durs de performance économique, ils vous répondent histoire glorieuse, notre souveraineté, reprise du contrôle, voilà ce genre de choses. On est absolument pas dans la rationalité pragmatique.
Et ça c'est
quand même très très intrigant.
Tout à fait. Au mieux, ils reconnaissent que oui, bien sûr, il y aura un coût économique à court terme, mais retrouver sa souveraineté, c'est tellement plus important que l'économie. C'est-à-dire que les bras vous en tombent quand vous entendez ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette, une souveraineté quand vous êtes à la rue? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais c'est le pur discours idéologique. C'est-à-dire la souveraineté l'emporte sur tout le reste, et ça vaut... C'est le discours de 1940, c'est Dunkerque, quoi. C'est, oui, c'est dur, oui, on souffre, mais finalement, c'est bon, quoi. Ça sera bien, et ça vaut la peine. Et c'est très difficile d'avoir un discours rationnel face à ce discours-là.
On ne peut pas comprendre parce que nous ne sommes pas britanniques.
C'est ça.
Quand on est britannique,
c'est
on le
ça.
Comprend.
Non, mais pour les négociateurs des 27 qui ont face à eux, disons, les représentants de ce gouvernement britannique, ça n'est pas facile. Parce que, si vous voulez, les négociateurs des 27, ils ont en tête des indicateurs économiques, des flux de commerce, etc.
Le bon sens, le bon sens du compromis.
En face, vous avez des gens qui réagissent totalement différemment.
Et voilà pourquoi on ne se comprend pas.
You first voted to depart, but before you off and pack, one thing, we want our language back.
Oh, England, you went your way, but for this exit you will pay. Without French letters you'll be lost. It's time for you to count the cost.
No, you can't have joie de vivre without le français.
You lose yourself without a cul-de-sac. There is no fizz without champagne.
Ce French Brexit song d'Amanda Palmer, Sarah Louise Young et Maxime Melton, partant du principe que les Britanniques souhaitent le Brexit, eh bien ces trois artistes exigent en retour avec beaucoup de malice l'arrêt d'utilisation de mots français dans la langue de Shakespeare. Voilà, rendez-nous notre français. Merci infiniment à tous. Pauline Schnapper, je rappelle votre ouvrage, co-auteur de Où va le Royaume-Uni, Christian Lequen, ethnographie du Quai d'Orsay, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, on retrouvera évidemment toutes ces références sur la page de Culture Monde. Merci Marc Sémo, on vous retrouve vendredi prochain. Dans un très court instant, c'est Lucille Como et La Critique.
Been risqué, for Brexit is just an entree. Yes, England, this is the start of picking allies à la carte. Soon the whole world will turn on you. It isn't